Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, ces nouvelles rassurantes de Kenji Girac. Son opération s'est bien passée.
Le chanteur blessé par balle hier, mais les circonstances de ce qu'il décrit comme un accident domestique restent toutefois bien floues ce matin. Courte nuit pour beaucoup d'agriculteurs dans l'Est qui ont dû composer avec des gelées. On est rache et des producteurs de champagne qui combattent le froid, figurez-vous, par le froid. Et puis, le Royaume-Uni expulsera désormais ses clandestins vers le Rwanda. Le Parlement britannique adopte son projet d'expulsion. On sera à Londres dès le début de ce journal.
À 8h20, 200 jours après l'attaque du 7 octobre en Israël, nous serons avec Johan Sfar. L'auteur et dessinateur publie une très émouvante enquête sur l'avenir des Juifs. Elle est intitulée « Nous vivrons ». Nos compatriotes juifs ont-ils vraiment peur de disparaître ? Je lui poserai la question.
À 7h40, l'une des figures du PAF, le paysage audiovisuel français, il a connu pas moins de 17 ministres de la Culture, 9 présidents de France Télé après 37 ans aux commandes du groupe M6. Nicolas de Taverneau quitte aujourd'hui ses fonctions de président du directoire. Il sera notre invité dans 3 quarts d'heure.
RTL Matin.
C'est donc vers un pays pas plus grand que la région bretonne que le Royaume-Uni va désormais expulser ses clandestins. Le Parlement britannique a adopté cette nuit son projet d'expulsion de migrants vers le Rwanda. Et ça, quel que soit leur pays d'origine. Alors ce matin, sur RTL, on va prendre le temps de comprendre et d'expliquer ce texte qui a divisé les parlementaires pendant 2 ans. Bonjour Marie Billon.
Bonjour.
Correspondante de RTL au Royaume-Uni. D'abord Marie, que prévoit ce texte ?
Alors le texte prévoit que tous les demandeurs d'asile arrivés clandestinement au Royaume-Uni puissent être potentiellement envoyés au Rwanda pour y déposer leur dossier. Alors tous peuvent y être envoyés, mais tous n'y seront pas envoyés, on parle de quelques centaines de personnes, et ils déposeront de force donc leur demande d'asile au Rwanda, c'est là qu'elle sera étudiée par le système rwandais. Et c'est le Rwanda qui leur accordera l'asile sur son sol. Si leur demande est acceptée, ils ne reviendront pas au Royaume-Uni. Le but final, c'est que les candidats aux traversées illégales de la Manche aient tellement peur d'être envoyés au Rwanda qu'ils renoncent à effectuer la traversée.
Et Marie, pourquoi le texte a mis 2 ans pour être adopté ?
Alors parce que c'était un projet de loi controversé dans le fond, externaliser les demandes d'asile, il a fallu vérifier que c'était compatible avec les traités internationaux et aussi parce qu'il a fallu prouver que le Rwanda était un pays sûr dans lequel les demandeurs d'asile seront bien traités. Et justement, la Haute Cour de justice avait dit, eh bien non, le Rwanda n'est pas un pays sûr. Alors cette loi qui a été votée finalement hier, elle s'intitule la loi sur l'assertion de la sûreté du Rwanda. C'est-à-dire que ce texte déclare unilatéralement que pour toute la durée de vie de cette loi, donc potentiellement pour toujours, le Rwanda est un pays sûr. Quel que soit ce qui s'y passe, c'est ce qui a le plus coincé à la Chambre des Lords. C'est le dernier amendement auquel il ne voulait pas renoncer. Il voulait que ce soit une commission spéciale qui jauge la sécurité du Rwanda régulièrement. Mais la Chambre haute a finalement abandonné son amendement vers minuit, dont le texte est passé.
Bon Marie, le Premier ministre britannique Rishi Sunak dit que tout est prêt. Donc comment va se passer le transfert de ces demandeurs d'asile ?
Alors, Rishi Sunak a dit que les vols ne décolleront pas avant 10 à 12 semaines, car même si certains demandeurs d'asile ont déjà été identifiés pour être envoyés au Rwanda, il faut les notifier, il faut qu'ils aient le temps de contester. Des dizaines de juges et de cours de justice sont déjà mis en stand-by pour gérer et expédier ces recours. Plus de 300 agents ont été formés pour concrètement escorter ces personnes récalcitrantes vers les avions, les appareils, les aéroports, des charters ont déjà été affrétés pour les expulsions en juillet. Donc a priori, si les associations et les ONG ne trouvent pas un moyen de stopper les vols à nouveau d'ici là.
Une explication de Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, texte adopté alors que l'an dernier, près de 30 000 personnes ont traversé clandestinement la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Leur nombre est en hausse de 20% depuis le début de l'année. Et RTL a pu visiter l'un des hôtels réquisitionnés pour accueillir ces migrants. Reportage au Rwanda dans le journal de 8h.
RTL 7h03. Moins 5 à Chaumont ce matin, moins 2 à Épinal. Beaucoup d'agriculteurs ont à nouveau passé la nuit en fait, à regarder leur thermomètre.
Avec la crainte de geler. Bonjour Samuel Goldschmidt.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Charly-sur-Marne, c'est à la frontière entre l'Aisne et la Seine-et-Marne. On frôle le 0 degré au thermomètre de la voiture RTL dans les vignes où vous vous trouvez. Alors, si certains ont allumé des bougies ou des LED, on l'entendait à 6h sur RTL, et bien d'autres combattent le froid par le froid, Samuel.
Oui, on l'aperçoit maintenant que le jour s'est levé, des centaines de jets qui aspergent les vignes, comme de l'irrigation. Alors ça, c'est une technique ancienne qui a plus de 50 ans. Il y a tout un réseau qui a été implanté ici pour mettre de l'eau sur les vignes et former une croûte de glace qui va protéger les bourgeons. C'est ainsi le cas chez Jean-Luc Fallet, qui est donc vigneron ici à Charly-sur-Marne.
Bon, bah, il y a tout un réseau de souterrains, de tuyauteries. Après, vous avez les réseaux qui sont aériens dans les vignes. Et au bout de ça, bah, vous avez des moteurs, une multitude de moteur qui pompe l'eau dans la Marne et qui asperge l'eau. Vous avez à peu près environ, je crois que c'est une trentaine de jets à l'hectare qui tournent en permanence pour arroser les vignes. Et cette eau qui tombe sur les vignes forme de la glace. La glace étant pratiquement à 0 degré, elle protège le bourgeon.
Voilà, un chimiste vous l'expliquerait mieux que moi, mais il y a une croûte de glace qui reste à zéro, donc pas en température négative, et chaque goutte apportée autour pompe l'énergie du froid qui va continuer à former cette croûte de glace, et le bourgeon au milieu, il faut y croire, mais ça marche, sera protégé quand ça fondra au cours de la journée. Alors ça fait un spectacle assez étonnant, puis vous entendez peut-être un feulement au fond de la vallée devant moi, ce sont des moteurs, parce qu'il faut vous imaginer un ensemble de gigantesques moteurs pour pomper l'eau de la Marne sur ces centaines d'hectares de vignes.
Samuel Goldschmidt dans l'Aisne pour RTL, la technique de l'aspersion. Vous êtes peut-être nombreux à avoir appris ça ce matin sur RTL.
Après son opération réussie dans la soirée, Kenji Girac est toujours hospitalisé à Bordeaux.
Mais les zones d'ombre sur la blessure par balle du chanteur restent nombreuses. Lui parle d'un accident. Maxime Lévy, que sait-on ce matin sur le déroulé des faits ?
Eh bien, on sait que Kenji Girac est retrouvé par les secours avec une blessure par balle dans la poitrine. C'était hier matin, dans sa caravane sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Biscarrosse dans les Landes. Opéré hier, son état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Hospitalisé à Bordeaux, faible mais conscient, il a pu échanger quelques mots avec les enquêteurs. Il dit avoir acheté l'arme dimanche dernier en brocante. Le coup serait parti tout seul alors qu'il la manipulait. Mais il n'explique ni pourquoi il l'a acheté, ni pourquoi il tenait cette arme en main en pleine nuit. Il doit de toute façon être réentendu quand il sera reposé. Enfin, on sait également que sa compagne a été auditionnée hier par les gendarmes.
Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire est désormais ouverte, ce qui permet aux enquêteurs d'avoir plus de moyens pour travailler sur cette affaire. De victime, il est passé à suspect. Dans le Nord, ce mineur, où est coulé le week-end dernier à Grande-Synthe, est toujours auditionné ce matin. Il est soupçonné d'être le complice des deux jeunes déjà écroués dans l'affaire de la mort de Philippe Kopmann, dont les obsèques auront lieu demain.
Il est 7h06, de nouveaux bouchons en perspective ce matin autour du périphérique parisien.
Oui, puisque l'autoroute A13 ne rouvrira pas avant le 1er mai, le temps des travaux sur la portion entre le périph et la 86 après la découverte d'une fissure. Autre perturbation dans les airs, cette fois ce sera jeudi, puisque le syndicat majoritaire de l'aviation s'attend à une mobilisation record après l'échec de négociations pour éviter une grève. Sur les rails, par contre, ça devrait bien rouler au moment des ponts du mois de mai. La direction de la SNCF a trouvé un accord sur les fins de carrière, écartant la menace d'une grève.
Les États-Unis et l'Ukraine annoncent travailler à un accord de sécurité.
Et dans le même temps, la Pologne se dit prête à accueillir l'arme nucléaire sur son sol si l'OTAN décidait de se renforcer à l'Est, où la Russie déploie de nouvelles armes. Depuis le début de la guerre, de plus en plus de Polonais rejoignent d'ailleurs l'armée, sans pour autant abandonner leur vie dans le civil. Pour ça, ils prennent part aux troupes de défense territoriale et suivent des formations régulières. Adrien Sarla, le correspondant de RTL en Pologne, a suivi l'une de ces sessions.
En quelques gestes efficaces et silencieux, les soldats font un garrot à leurs compagnons inertes et maculés de sang au cœur de la forêt.
Commandant, on a un blessé, il a la jambe droite lacérée, on a besoin d'un médecin.
Des entraînements en conditions réelles auxquels Stanislav participe depuis 6 ans maintenant. L'invasion de la Crimée par la Russie en 2014 l'a décidé à sauter le pas.
Je me suis dit qu'il valait mieux être prêt en toutes circonstances. Car malheureusement, on a une frontière avec la Russie et on risque d'être les prochains à se faire attaquer.
Lui n'a pas eu besoin d'abandonner son métier d'archéologue pour venir s'entraîner ici un week-end par mois. Comme lui, 40 000 autres Polonais ont opté pour cette formule attractive, selon le lieutenant-colonel Podolszański.
Ça signifie qu'aujourd'hui, plus de 40 000 citoyens polonais savent manier les armes à feu, tirer, prodiguer les premiers secours et comment se comporter en cas de danger. Et l'intérêt pour notre formation ne fait qu'augmenter.
De quoi renforcer les effectifs de l'armée polonaise si d'aventure la guerre s'invitait en Europe.
Adrien Sarla, correspondant de RTL en Pologne.
Et puis alors que près de 200 pays se réunissent dès aujourd'hui au Canada pour tenter d'enrayer la pollution plastique, retour sur la fin d'un feuilleton qui a agité la ville de Ploemeur.
La commune de 19 000 habitants au cœur du Morbihan avait été désignée comme ville la plus polluée de France. Il n'en était rien, le responsable était en fait un simple capteur encrassé, Mathieu Lopineau.
Pendant plusieurs jours, la rumeur rôde dans les rues de Ploemeur.
Ploemeur, la ville la plus polluée de France.
Je suis étonné, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'usine dans le coin.
Avec ce vent-là, vous voyez, je pense que la pollution chez nous, on ne connaît pas trop.
Vous vivez dans la ville la plus polluée de France?
Bah, apparemment, oui.
Parce que c'est faux.
Hein?
C'est faux en fait.
Ah bah d'accord.
Bon, ça vous rassure?
Oui, ça me rassure beaucoup, oui.
L'information est tirée d'une étude d'une société suisse IQR qui, à partir de capteurs d'air distribués à des habitants dans plusieurs villes de France, classe Ploemeur, ville française ayant le plus fort taux de concentration en particules fines. Du grand n'importe quoi pour le maire Ronan Loas.
Je vois ça, mais c'est quoi ce truc bidon? On est une commune de bord de mer, on peut pas avoir un air plus pollué à Ploemeur que sur le périph' parisien. C'est impossible. Je vois le truc qui part sur les réseaux sociaux, donc tout de suite, boum, boum, les gens me questionnent, mais monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe? Et on a quelqu'un qui vient nous voir en mairie, qui nous dit, ben, tout penaud, ben, je crois que le pépin, c'est moi. Lui, je le blâme pas, mais on n'est pas sur un capteur scientifique.
Cet habitant qui participait à l'étude avait placé son capteur d'air trop près du conduit de cheminée de son voisin.
Que leur espèce d'étude mondiale sur des capteurs non contrôlés soit balancée comme ça, et maintenant on n'en rigole plus, je suis plus détendu. Mais quand j'ai eu l'article qui est sorti, j'avoue que j'ai eu l'estomac qui est remonté d'un cran.
La mairie n'exclut pas de porter plainte contre la société suisse.
Une sacrée histoire. Mathieu Lopineau dans le Morbihan pour RTL.
Bah alors monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe? Il est 7h10. Bon, les courses ont quand même lieu à Compiègne.
Départ 13h55, les pronostics de Dominique Cordier, le 3, le 6, le 8, le 4, le 15, le 9, le 7, l'outsider du RTL, le 4. J'en profite pour vous dire, on en parlait hier dans ce journal, ce jockey britannique, oui, vainqueur du prix du président qui avait interpellé Emmanuel Macron sur sa demande de titre de séjour qu'il attendait depuis 8 ans quand même. Il a visiblement été entendu puisqu'il a rendez-vous demain à la préfecture.
Ah bah ça c'est bien, une oui, bonne nouvelle.
Il a bien fait,
c'est efficace.
Nouvelle, le journal de 7h vous était proposé par Hortense Crépin. Merci Hortense, il est 7h11.
Et dans un tout petit instant sur RTL, une enquête exceptionnelle. 7 mois, jour pour jour après la disparition de Lina en Alsace, immersion auprès de ses enquêteurs. Enquêteurs bénévoles qui recherchent les personnes disparues. Ils sont plusieurs centaines en France.
Alba Ventura, vous vous penchez ce matin sur le cas de François Ruffin.
Oui, François Ruffin, plus fort que Jean-Luc Mélenchon.
C'est dans un instant.
RTL Matin.
Moi, ça me rend joyeuse. La dernière fois, je suis revenue au bureau après un don sang et il y a un collègue qui m'a dit « Mais t'es tout sourire, Sarah, aujourd'hui ?» C'est ça. À chaque fois que je donne, en plus d'être fière de moi, je me sens vraiment bien. On a tous une raison de donner son sang ou son plasma. Rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang.
Ce mardi, jackpot Euromillion de près de 130 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
La Côte d'Or, au cœur de la Bourgogne. C'est la première destination nature et patrimoine entre Paris, Lyon et Strasbourg. Des sites inscrits à l'UNESCO, des plus beaux villages de France, le parc national de forêt, le parc du Morvan, des itinéraires gourmands, dont la célèbre route des Grands Crus. Tout commence sur lacotedorjadore.com.
C'est si bon.
Limousine.
À l'aubergine.
À la bénédictine.
À la poitevine.
À la girondine.
En mousseline.
Chez Micheline.
En mandarine.
Façon Justine.
En gélatine.
À la cantine.
En tartine.
En tagine.
En verrine.
So bling bling.
En smoking.
En jogging.
Chez la voisine.
De la grande cuisine.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui, oui.
Visio Confucius. Tu vois? Toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
RTL événement.
Et l'événement ce matin sur RTL, 7 mois, jour pour jour après la disparition de Lina, 15 ans en Alsace, c'est cette enquête sur ces bénévoles qui recherchent les personnes disparues. Chaque année, on le sait pas, ou peu, mais ce sont plus de 70 000 personnes qui disparaissent dans notre pays. L'immense majorité est bien sûr rapidement retrouvée, mais 1000 d'entre elles restent introuvables. Ce sont les chiffres de l'ARPD, l'assistance et recherche de personnes disparues. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
Vous avez rencontré l'un de ces enquêteurs bénévoles. Elle s'appelle Florence et remue ciel et terre pour retrouver Bruno Chrétien, disparu lui dans l'Aisne le 17 octobre dernier.
C'est ici qu'on a perdu Bruno.
Le buste penché vers l'avant, le doigt pointé vers le sol, a regardé dans les yeux la cinquantaine de personnes qu'elle a réussi à rassembler pour une battue.
Prenez plus vers le sud. Vous arrivez ici au niveau du véhicule qui a été retrouvé le mercredi 18.
Elle a pendant des mois tout cartographié de la disparition de Bruno.
Parce que les zones 2 et 3 sont beaucoup plus difficiles d'accès. Hein.
Pour ça, on va faire du ciel, ça sera mieux.
Ici, en forêt de Coucy Basse, au milieu de nulle part. C'est parti. La colonne de gilets jaunes orange s'enfonce dans les bois. Florence, votre vrai métier, c'est documentaliste.
Oui.
C'est votre première battue.
Et oui.
Vous avez l'air inquiète.
On se dit, on a une responsabilité. On ressent la détresse de la famille en même temps et on aimerait leur apporter une réponse. Des affiches. On a beaucoup parlé avec les promeneurs, les cyclistes, tous les gens qui viennent dans la forêt, porte à porte, commerce. On a fait aussi des démarches auprès des paroisses, puisque Bruno était croyant. On a vérifié les puits. On y pense tous les jours. Ça nous obsède. On se demande, mais quelle action est-ce que je peux encore faire ?
Un engagement qui émeut Xavier. C'est l'un des membres de la protection civile que Florence a réussi à mobiliser. C'est vous qui pilotez le drone.
Des gens qui travaillent, qui ont une vie à côté, qui prennent sur leur temps libre pour chercher des personnes disparues. Moi, j'ai le frère du disparu qui m'a clairement dit, malheureusement, on recherche un corps plutôt qu'une personne vivante. C'est triste, mais on ne peut pas pallier à tout, malheureusement.
Dans ces circonstances, bien sûr, la famille pense au pire, hein, 6 mois sans nouvelles de leurs proches. Et c'est elle, d'ailleurs, Vincent, qui a sollicité la RPD.
C'est dans le cas de Bruno, comme pour la famille de Lina qui a sollicité la RPD en Alsace, pour maximiser les chances de retrouver la personne disparue. On est en bordure de forêt avec Sylvie, la sœur de Bruno qui vient de Bordeaux pour la battue. Mickaël, le frère, depuis Marseille. La RPD, c'est d'abord un soutien.
Ah oui, c'est sûr. Heureusement qu'il y a des associations comme ça pour nous aider. Parce que c'est vrai qu'il faut déjà surmonter sa peine, affronter aussi toutes les démarches administratives. Tout seul, on est désemparé. C'est dur.
Mettez-vous à notre place. Pas de nouvelles de votre proche depuis 5 mois. C'est des pleurs, c'est voilà.
La RPD, c'est un nouvel espoir.
C'est sûr, heureusement.
Mais en pleine forêt, les pieds dans la boue, la langue d'un proche se délie.
Je pense qu'il n'y a pas eu le max de fait depuis octobre, quoi. Par les gendarmes.
À quelques pas de là, Florence, l'enquêtrice bénévole qui l'entend, détourne le regard. Elle travaille main dans la main avec les gendarmes. Elle leur donne toute nouvelle information dont elle dispose. C'est même elle qui leur a demandé de superviser la battue qui n'a rien donné.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider la famille ? Ça me fait peur.
Aucune nouvelle trace de Bruno.
Et Vincent, on sent que Florence et les enquêteurs bénévoles de la RPD donnent tout ce qu'ils peuvent pour retrouver les personnes disparues.
Oui, la RPD compte 621 membres aujourd'hui. Ils sont de plus en plus nombreux, notamment dans les Hauts-de-France, dirigés par Josepha Lagnès. C'est elle qui a validé le dossier de Florence pour devenir enquêtrice.
15 enquêteurs lorsque je suis arrivée il y a un an. Et aujourd'hui, on est 41 personnes. C'est vrai que dès qu'il y a une émission sur appel à témoins, on est submergé de candidatures. Oui.
À ce point-là, submergé ?
Oui, submergé. Oui. On a des architectes, des détectives privés. Et c'est vrai que les enquêteurs, comme la famille, ne sont pas prêts à retrouver une personne pendue à un arbre, par exemple.
C'est déjà arrivé.
Oui, 3 fois cette année.
La RPD a mis à disposition de ses enquêteurs une psychologue. Florence ne l'a pas encore appelée. Elle qui se donne corps et âme depuis le 9 novembre, depuis le jour où elle s'est vue confier l'enquête sur la disparition de Bruno.
Chaque fois que je rentrais dans la forêt, je pensais à Bruno. Il est là, il est quelque part. Le soir surtout, quand on se couche, on se dit bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain ou après-demain ou dans la semaine qui va venir. Bruno, c'est un être humain.
Si vous ne retrouvez jamais Bruno.
Bruno fait partie de la forêt et chaque fois que je viendrai dans la forêt, Bruno est là.
Florence doit, dans les prochains jours, participer à une nouvelle battue. Elle s'enfoncera une nouvelle fois dans la forêt avec les gendarmes.
Enquête signée Vincent Serrano pour RTL. J'ajoute que les enquêteurs bénévoles de la RPD ont aidé à retrouver 146 personnes l'an dernier. 106 étaient vivantes.
RTL, 7h18.
RTL Matin.
Bonjour Alba Ventura.
Bonjour à tous.
Alors les mauvaises nouvelles se suivent et se ressemblent pour Jean-Luc Mélenchon. Dans un sondage publié par le journal Libération, le leader des Insoumis serait sèchement éliminé au premier tour de la présidentielle. Pire, il est éclipsé par un candidat issu de son propre camp, François Ruffin en l'occurrence, qui fait 10 points de mieux. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon est hors jeu, Alba ?
Ça veut dire, Yves, qu'on ne peut pas impunément collectionner les outrances, les provocations, les invectives, les dérapages. Comparer, comme il vient de le faire, le président de l'université de Lille à un nazi homo motif qui ne s'est pas opposé à l'interdiction de la conférence que Jean-Luc Mélenchon voulait organiser, à un moment, ça se paye. Ça se paye avec ses camarades politiques. L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a été un acte de rupture avec une partie de la gauche. Ça a été la fin de la NUPES, cet accord politique qui a explosé en vol. Ça se paye aussi avec l'électorat de gauche. Et on le voit dans les sondages, même s'ils ne donnent qu'une tendance, même chez les jeunes électorats traditionnels de Jean-Luc Mélenchon, c'est Jordan Bardella qui progresse. En réalité, ça fait 3 ans que les mélenchonistes creusent leur tombe politique. Donc on peut penser que Jean-Luc Mélenchon a livré son dernier combat présidentiel en 2022. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il avait publié l'an dernier cet essai intitulé « Faites mieux ». Comme une façon de passer le flambeau.
Justement, Alba, qui peut faire mieux ? François Ruffin ?
François Ruffin a gardé une posture très à gauche, mais tout en maintenant un certain nombre de règles, en maintenant un cap, la défense des classes populaires. Lui, il ne s'est pas perdu de vue après le 7 octobre. Il n'a pas choisi de parler à une communauté, il a choisi de parler à la gauche. Et dans ce sondage que Libération a publié, François Ruffin fait un score inattendu. Pour la petite histoire, je vous dis que ce sont les proches de François Ruffin qui ont commandé ce sondage pour lui prouver qu'il avait un rôle à jouer. Mais alors écoutez bien, s'il était le candidat de la gauche unie pour la prochaine présidentielle, au premier tour, il obtiendrait 29% des voix, un point derrière Marine Le Pen, 4 points devant Édouard Philippe, candidat de la majorité. Et au second tour, il ferait jeu égal avec Marine Le Pen à 50-50. Et quand Jean-Luc Mélenchon est testé, il fait bien moins bien. Il est donné à 18% au premier tour derrière Marine Le Pen et Édouard Philippe et à 35% face à Marine Le Pen dans un scénario de second tour. Bon, évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes. On est encore très loin de 2027. Une campagne, c'est long. Mais ça dit quelque chose de la gauche pour 2027.
C'est-à-dire, Alba, expliquez-nous.
Ça veut dire qu'il y a des électeurs de gauche, Yves, des déçus des Insoumis, de la NUPES ou des déçus d'Emmanuel Macron qui ont envie d'être représentés, de porter une candidature. Et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Ça montre qu'il y a potentiellement une place à nouveau pour un candidat de gauche ou une. Alors, est-ce que ça pourrait faire les affaires d'un François Ruffin, d'un Raphaël Glucksmann qui fait une petite percée dans les sondages pour les européennes, d'un François Hollande qui trépigne toujours, d'un Bernard Cazeneuve qui aimerait bien jouer placé, ou d'une Carole Delga, la présidente de la région Occitanie? À voir, on est encore loin et sans doute pas au bout de nos surprises.
Merci beaucoup Alba Ventura, il est
7h21. 7h21 et dans un tout petit instant, c'est entré dans l'histoire. Bonjour Laurent Deutsch.
Aujourd'hui, on va parler d'un des suicides les plus spectaculaires de l'histoire de France, celui du cuisinier Vatel, pour une histoire de poisson.
À tout de suite.
RTL.
Maman m'a appris à toujours aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversé. Je savais pas quoi faire, ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 32 urgence décès. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout.
En cas de décès, appelez gratuitement le 32. Une équipe urgence décès PFG vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une prise en charge partout en France. Urgence décès 32, un service PFG.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, c'est cuit.
Pour Lidl ?
Et non, pour nous et pour les crevettes. En ce moment, la barquette de 100 grammes de crevettes AIC décortiquées au citron et à la coriandre est à 2,30€ au lieu de 2,99€, moins 23%.
2,30€ les crevettes.
Eh oui, on est mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 23€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mercredi 24 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et pour notre anniversaire, du 2 au 29 avril, on va vous gâter.
Ah oui ? Pourquoi ? C'est aussi mon anniversaire ?
Et oui ! Chaque jour, foncez à notre borne de jeux en magasin pour tenter de gagner des e-cartes cadeaux jusqu'à 50€. Et en plus, avec ma carte Netto, tentez de gagner un séjour en famille.
Ne m'en dites pas plus, je fonce chez Netto.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto.
Jeux avec obligation d'achat dès 25€. Règlement sur netto.fr.
RTL.
Entrez dans l'histoire.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour à tous.
Et aujourd'hui, vous nous parlez, Laurent, d'un des suicides les plus spectaculaires de l'histoire, celui du cuisinier François Vatel. Ça s'est passé la nuit du 23 avril 1671 au cours d'une fête donnée pour le roi Soleil.
Exactement. Alors, en réalité, Vatel n'était pas vraiment cuisinier. Il était surtout maître d'hôtel, et pas de n'importe qui, de Nicolas Fouquet, l'homme le plus puissant du royaume à l'époque, durant la jeunesse de Louis XIV. Devenu aussi son homme de confiance, Fouquet lui confie des missions qui dépassent largement le cadre de l'hôtellerie.
Ah bon ? Que fait-il donc ?
Eh bien, c'est en quelque sorte son directeur de l'événementiel, comme on dirait aujourd'hui. Il organise des visites officielles et surtout des fêtes somptueuses. Il s'agit de montrer qu'on a de l'argent et donc du pouvoir. Comme en ce 17 août 1661, où Fouquet reçoit Louis XIV en personne dans son château flambant neuf de Vaux-le-Vicomte. Mais la fête organisée par notre Vatel était tellement éblouissante qu'elle n'a pas du tout eu l'effet escompté. Au contraire, Louis XIV, humilié d'avoir trouvé plus riche que lui, enverra Fouquet croupir en prison 3 semaines plus tard.
Et que devient Vatel ?
Alors, sachant qu'il a été l'artisan de cette fête fâcheuse qui a éclipsé le roi Soleil, Vatel a craint pour sa sécurité. Il s'est exilé quelque temps en Angleterre. Et lorsqu'il revient en France, il entre alors au service du prince de Condé, qui cherche à l'époque à se réconcilier avec son cousin Louis XIV. Condé décide donc d'organiser une fête grandiose en l'honneur du roi en son château de Chantilly. Et c'est Vatel qui s'y colle. 10 ans après Vaux-le-Vicomte, la pression pour lui est énorme. Et en plus, les choses commencent mal. Vatel a prévu une réception pour 300 personnes, mais les invités, c'était le gratin du royaume. Ils viennent donc accompagnés de dames de compagnie, de valets, et on parle à présent de 3000 convives au total. Or, le château de Chantilly ne compte que 10 chambres. Alors, à quelques jours de la réception, Vatel est toujours absorbé par la recherche de logements dans les environs. Il cherche des Airbnb, le gars. Il est complètement dépassé et déjà au bord du burn-out, comme on dirait aujourd'hui.
Bon, alors, la fête commence quand même le jeudi 23 avril 1671. Et dès le premier soir, première fausse note.
Eh oui, Yves, il manque du rôti pour la dernière des 25 tables. Ah, ça la fout mal. Et en plus, un feu d'artifice prévu à la fin de la soirée est gâché par de gros nuages. Vatel est au comble du déshonneur. Le lendemain, on doit servir du poisson. Vendredi oblige. Poisson qui doit arriver tôt dans la matinée depuis les ports de la Manche. Alors, à 4h du matin, une première livraison arrive, mais c'est comme pour le rôti de la veille. Il n'y en a pas assez. C'est la panique. Et pour Vatel, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il dit à son assistant: « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront. » Il se retire alors dans sa chambre, coince son épée dans le chambranle de la porte et s'embroche dessus à 3 reprises comme un poulet, jusqu'à tomber raide mort. Ironie du sort, quelques minutes seulement après son suicide, de nouvelles livraisons de poissons sont arrivées et les festivités ont continué sans accroc et sans même que les convives ne soient informés de la tragédie qui s'était jouée en cuisine.
Mais c'est horrible cette histoire. Merci beaucoup Laurent. Demain, de quoi nous parlez-vous ?
Ah ben demain, on va parler de cette journée du 24 avril 1915 qui marqua le début du génocide arménien.
À demain.
À 7h26 sur RTL, dans 4 petites minutes, le journal. Et c'est l'un des grands titres ce matin, ce froid qui persiste, Louis Baudin. On n'était pas loin de 1 ou 2 degrés ce matin dans Paris.
Ben oui, exactement. Et puis on a encore des gelées, notamment dans le centre, dans le nord-est. Bref, ça continue. On est au mois de mars, là, pas à la fin avril.
15h30, 18h, votre rendez-vous quotidien avec les grosses têtes de Laurent Ruquier. On retrouve les meilleurs moments chaque matin. Et cette fois-ci avec un auditeur fan d'Alex Vizorek au téléphone. Bah oui, ça existe.
Bonjour Alex. C'était pour vous dire que je vous ai découvert chez Laurent. Et malgré les 12 ans passés dans une radio concurrente, je ne vous connaissais pas du tout et je vous ai vraiment découvert.
Ben, c'est pour ça que je suis venu, pour que vous me découvriez. Je me suis dit, il y a Yann qui ne m'écoute jamais sur Inter, je vais venir sur RTL.
C'est ça, et vous avez bien fait. Et du coup, voilà, je vous adore.
C'est gentil.
Votre humour. Et aussi vous signaler qu'il y a 15 jours, je sais que par chronique interposée, vous fightez un petit peu avec Monsieur Cadrivière.
Je ne sais pas qui c'est. Jamais entendu parler.
Sachez que maintenant, avant votre podcast, RTL fait la pub du podcast de Monsieur Cadrivière.
Oh, et ça c'est fourbe.
On est un peu les Inès Reg et Natacha Saint-Pierre de RTL.
C'est vrai qu'on a un auditeur dénonciateur.
Oui, un peu.
J'ai l'impression qu'il écrit la commande en tour, là.
Voilà.
C'est incroyable.
Alors, pour rappeler le programme, 15h30, 18h, les grosses têtes. Oui. Philippe Cavrivière, c'est à 7h55 absolument. Et 8h40 et voilà. Tous les matins sur RTL. Alex Vizorek, vous le retrouvez aux alentours de 18h30 dans RTL. Bonsoir pour l'heure. Il est 7h28. Très bon début de journée.
C'était bien, ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What?
Bah, Fiat étend le bonus écologique de 7000 euros à tous.
3000 euros de remise en plus?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79 euros par mois seulement.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LLD 37 mois, apport de 2650 euros, bonus éco 4000 euros, remise éco Fiat 3000 euros et prime à la conversion de 1500 euros déduits si accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur Fiat.fr. Pensez à covoiturer. Fiat.
Amazon offre jusqu'à 8000 euros pour la formation professionnelle. Grâce à cela, Daniel a suivi une formation de développeur logiciel. Maintenant, il considère le son de son clavier comme la plus belle musique qui soit. En 2 ans, il est passé de préparateur de commandes au métier de ses rêves. Et même son fils trouve qu'il se débrouille pas si mal en codage. Ce qui n'est pas peu dire de la part d'un adolescent. Chez Amazon, nous sommes engagés envers la formation et l'évolution des carrières. Sous condition d'éligibilité.
RTL Matin.
Pour profiter de l'été, Batiman, spécialiste de la protection solaire, installe chez vous store pergola brise-soleil sur mesure et motorisé.
Les choses sont assez simples, il fait encore plus froid qu'hier et ça va durer.
Oui, c'est ça, on a moins 3 à Guéret là, moins 3 à Luxeuil, moins 2 à Nevers, à Gourdon, à Épinal, dégelé ou en tout cas proche de 0 degré du Massif central au centre et au nord-est, donc ça donne le ton de la journée. Et cet après-midi, on ne dépassera pas les 9 à 12 degrés dans la moitié nord, on devrait avoir 15 à 17 quand même, oui, il manque quelques degrés, 13 à 16 degrés dans la moitié sud, là aussi on sera loin des 20 degrés que l'on devrait pourtant atteindre à cette époque de l'année. Tout ça avec un ciel encore très changeant, des éclaircies, assez belle dans la plupart des régions, et puis toujours en montagne, ce risque d'averse entre les Alpes et la Corse, averse sous forme de pluie ou de neige dès 1000 mètres dans les Alpes, avec parfois même de l'orage, des averses possibles sur l'Auvergne ou encore les Pyrénées, avec là aussi de la neige à partir de 800 mètres, et puis toujours du Mistral et de la Tramontane autour du Golfe du Lion, jusqu'à 80 km/h cet après-midi, et en prime, des nuages reviendront près de la Manche cet après-midi, avec peut-être quelques gouttes de pluie.
Ah, mais ça nous manquait.
Oui, ah bah... Toi, auditeur d'Épinal, nous pensons à toi.
Oui.
Il est 7h30.
Yves Calvi, Amandine Bégaud.
RTL Matin jusqu'à 9h.
Et le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Et si un agent des impôts ou autre fonctionnaire devenait le temps d'un été agent de sécurité? Proposition très sérieuse du gouvernement pour pallier à la pénurie pour les JO. Il manque 8000 agents de sécurité privés et le projet de décret sera présenté aujourd'hui, Mathilde Piquet.
Imaginez un agent des impôts fouiller les spectateurs ou regarder l'intérieur de leur sac à l'entrée d'un site olympique. Eh bien c'est ce que permettra ce décret. Après approbation de leur hiérarchie, les fonctionnaires pourront cumuler leur emploi avec des missions rémunérées de sécurité privée. De quoi arrondir les fins de mois pour certains agents. Sur le papier, c'est attractif, mais ça s'annonce plus compliqué dans la pratique. Faute de temps pour former les volontaires, la mesure sera réservée à ceux qui ont déjà une carte professionnelle de sécurité privée. Et ça, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. De l'aveu du ministère lui-même, cela représente quelques centaines d'agents maximum sur plus de 5 millions de fonctionnaires. Autre obstacle, ces missions de sécurité privée ne pourront pas être réalisées sur des jours travaillés. Il faudra poser des congés et respecter les temps de repos hebdomadaires. Bref, l'opération « Il faut sauver le soldat JO » s'annonce mal, conclut un responsable syndical.
Précision signée Mathilde Piquet.
Un troisième suspect a été placé en garde à vue dans l'enquête sur le passage à tabac mortel de Philippe à Grande-Synthe.
Il s'agit du cousin d'un des deux mis en examen. Lui aussi tabassé le week-end dernier. Cet adolescent de 15 ans a été retrouvé venue sur la voie publique. Sa mère en témoignait hier sur RTL. Il est passé en quelques heures du statut de victime à celui de potentiel complice, Franck Hanson.
Les policiers de la PJ de Lille ont attendu que ce jeune garçon sorte de l'hôpital où il devait être opéré pour l'interroger et le mettre face à certaines contradictions. De victime, le cousin de l'un des premiers agresseurs présumés, hébergé d'ailleurs sous le même toit, est lui aussi devenu suspect. Un possible troisième homme dans le meurtre de Philippe Kopmann, comme certains à Grande-Synthe pourraient déjà l'avoir soupçonné. Une avancée saluée par Kelvin, le frère aîné de l'ancien animateur, qui attend maintenant d'autres interpellations.
Il faut démanteler tout le groupe, même ceux qui n'étaient pas là sur mon petit frère. C'est une bande de sauvages, de barbares, et il ne faut pas s'arrêter là. On sait qu'ils sont plus nombreux et qu'ils ont déjà agressé plusieurs autres personnes. Ça ne ramènera pas Philippe. Mais au moins, on voit que l'enquête à l'avance. Maintenant, à la justice de suivre. Ce n'était pas possible de ne pas aimer Philippe.
La mère de cet adolescent en garde à vue assurait ce week-end qu'il n'avait rien à voir avec cette agression mortelle. Un garçon scolarisé, déjà père d'une fille de 8 mois. Les proches de Philippe se préparent quant à eux à lui rendre un dernier hommage demain, un jeune irréprochable, et ils en restent convaincus, attaquer gratuitement.
Franck Hanson à Grande-Synthe dans le Nord pour RTL. En bref, un homme de 26 ans sera jugé pour menace de mort sur Internet à l'encontre du proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Menace proférée après une altercation avec une élève qui refusait d'enlever son voile. Il risque 5 ans de prison. À l'étranger, après un ping-pong parlementaire de 2 ans, le Parlement britannique donne son feu vert cette nuit au projet de loi controversé d'expulsion des demandeurs d'asile vers le Rwanda, quelle que soit leur nationalité, s'ils sont entrés illégalement sur le sol britannique. Il pourrait être renvoyé en charter à Kigali. On y revient dans le journal de 8h.
Et puis cette étrange question, après 2 ans et demi de guerre en Ukraine, que faire de ces yachts russes en Europe et aux États-Unis?
Ils coûtent une coquette somme à entretenir et certains pays souhaiteraient les vendre pour reverser l'argent à l'Ukraine. Sauf que les procédures sont très compliquées. Le Sénat américain va tenter d'y remédier, Sophie Jousselin.
Oui, il s'appelle Tango, Alfa Nero, Lady Anastasia et les pays qui ont saisi ces yachts doivent les entretenir et ça coûte une fortune. Exemple avec l'Amadea d'une valeur de 325 millions de dollars. Il est amarré dans le port de San Diego en Californie. Alex Finlay est un ancien agent de la CIA. Elle est reconvertie en traqueuse de super yacht.
À bord, il y a quelques membres d'équipage. Le bateau est dans l'eau salée, c'est très corrosif et donc il y a beaucoup de maintenance à faire. Il faut le faire naviguer un peu et donc pour l'Amadea, les États-Unis paient entre 700 000 et 1 million de dollars par mois.
Alors certains pays aimeraient bien vendre ces yachts, mais pour cela, il faut connaître leurs propriétaires et c'est pas évident. Les États-Unis, par exemple, ont du mal à prouver que l'Amadea appartient bien à Souleymane Karimov, un proche de Vladimir Poutine.
Les États-Unis sont sûrs que c'est lui le propriétaire, mais un autre homme, un certain Edouard Koudenikov, affirme que c'est son bateau. Donc il y a une procédure en cours pour établir si Koudenikov est vraiment le propriétaire.
En France, 9 yachts sont saisis, mais leurs propriétaires, via des sociétés écrans, continuent de payer les frais d'entretien.
Les explications de Sophie Jousselin pour RTL. Alors parmi ces bateaux en France, justement, il y a l'Amore Vero à la Ciotat, valeur estimée à 120 millions d'euros. Il appartient à un proche de Vladimir Poutine.
Quelles histoires, ces chiffres sont étourdissants et c'est Aude Vernuccio qui nous proposait le journal. On vous retrouve à 8h30.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, cher Aude. Il est 7h35. Un compte épargne-temps universel. C'est la nouvelle lubie du gouvernement. L'absurdistan continue, cher François Langlais.
Le sais-tu? Sais-tu ce qu'est le sais-tu? Eh bien, je vais te l'expliquer.
Avec bonheur, c'est dans un instant.
Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.
C'était bien ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What?
Bah, Fiat étant le bonus écologique de 7000 euros à tous.
3000 euros de remise en plus?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79 euros par mois seulement.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LLD 37 mois, apport de 2650 euros, bonus éco 4000 euros, remise éco Fiat 3000 euros et prime à la conversion de 1500 euros déduit si accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur Fiat.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Fiat.
Au printemps, vous et votre trottinette électrique, vous êtes inséparables. Vous avez même hâte d'être lundi pour aller au boulot avec.
C'est parti.
Mais on est dimanche, là.
Pas grave, j'y vais quand même.
Pas étonnant, avec l'autonomie jusqu'à 55 km de la trottinette qu'on a sélectionnée chez Decathlon. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, la trottinette électrique Ninebot F2+, est à 499 euros au lieu de 599, soit 100 euros de réduction. Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Carrefour.
Quand vous me dites
« Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protège-slip large Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Quand vous avez un brique glace, ça vous paraît compliqué à gérer? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
RTL Matin.
Il est 7h37, l'Anglais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Le gouvernement envisage de créer donc un nouveau droit social, le compte épargne-temps universel.
Oui, Bienvenue dans l'économie de guerre à la française. Un pays qui crée de nouveaux droits sociaux alors que, si on en croit notre président Matamor, on en est envoyé bientôt des troupes au sol en Ukraine. Alors que la France a l'un des déficits budgétaires les plus élevés d'Europe, que nous finançons désormais par la dette le tiers des dépenses de l'État, alors que la croissance économique flirte avec le zéro et que la productivité est négative. Le vieillissement de la population, on aurait pu rajouter, qui nous réserve quand même quelques surprises pour le financement de notre santé. J'arrête ou je continue?
Je vous commencez à m'angoisser, mais vous noircissez peut-être un peu le tableau, non?
Si j'avais noirci, j'aurais pas omis la transition écologique, qui va nécessiter des dizaines, des centaines de milliards d'euros d'investissement.
Oui.
Bon, c'est donc le meilleur moment pour redistribuer les fruits de la croissance. Il n'y a ni fruits, ni croissance. Et l'arbre lui-même commence à piquer du nez à cause de la sécheresse.
Bon alors, de quoi s'agit-il exactement? Avec ce fameux compte épargne.
Alors écoutez, c'est un compte épargne temps universel.
Oui.
C'est le compte qui est universel, pas le temps. Hein. Le CETU, une vieille promesse du candidat Macron qui avait été agitée au moment de la réforme des retraites comme un trompe-la-faim. Il s'agirait de permettre aux salariés qui ont accumulé des congés ou des RTT sur leur compte épargne temps, en clair, les jours de congés non pris,
voilà,
de transférer ce droit chez leur nouvel employeur s'il change d'emploi.
Pardonnez-moi, ça veut dire que ce serait au nouvel employeur de payer ses congés, c'est bien ça?
Ah non, on est en France, donc on construit une usine à gaz. Et qui dit usine à gaz, dit caisse des dépôts.
Oui.
La caisse, organisme public, serait chargée de stocker les droits de tous les salariés, avec les financements assortis. Mais là où vous avez raison, c'est qu'un nouvel embauché se présenterait désormais chez son employeur avec son sac à dos et dedans 10, 15, 30 ou 60 jours de congés supplémentaires.
Ah, voyons.
L'obligation pour le nouvel employeur étant d'y faire droit, même s'il les paye pas. Vous imaginez le bazar qu'une TPE gère tout ça, alors qu'on a déjà la quantité de travail par habitant la plus faible de tout l'OCDE.
Vous êtes en train de gentiment nous expliquer que c'est vraiment pas le moment.
Oh, écoutez, c'est même à la limite de la schizophrénie pour un gouvernement qui nous dit faire la promotion de la valeur travail. Créer un service public de la compensation inter-entreprise des congés, c'est quand même le signe que les Français sont concentrés sur le réarmement général du pays. Tiens, j'allais oublier de vous parler d'une actualité, une autre,
ah oui,
qui montre, elle aussi, que la France a pris la mesure des efforts qu'il lui faut accomplir. La SNCF annonçait hier la signature d'un accord social permettant aux contrôleurs de partir 18 mois avant l'âge de la retraite, tout en continuant à être payés par l'entreprise publique.
Oh oui.
Un âge de la retraite qui, à la SNCF, est déjà, on le sait, beaucoup plus précoce que pour le reste du pays. Ben ça aussi, vous voyez, c'est typique de l'économie de guerre.
Merci beaucoup François Langlais. Vos chroniques sont évidemment à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL.
Bientôt 7h41 sur RTL. Dans un instant, l'une des figures du paysage audiovisuel français. Il a connu pas moins de 9 présidents de France Télé, 17 ministres de la Culture.
C'est beau.
Bonjour Nicolas de Taverneau.
Bonjour.
Et bienvenue ici dans le studio de la matinale après 37 ans aux commandes du groupe M6 auquel appartient, je le rappelle, RTL. Vous tirez aujourd'hui votre révérence. Alors ceux qui nous regardent sur RTL.fr se demandent peut-être pourquoi vous avez le bras en écharpe. Vous ne vouliez pas passer la main?
Je voulais pas signer de chèque avant de partir.
C'est donc
un petit
bien.
Accident, un petit accident horticole.
Bon, en tout cas vous êtes en forme. À tout de suite.
7h41.
RTL.
Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Corentin.
Moi?
Oui, vous. Car du 23 au 29 avril, pendant l'anniv Netto, le paquet d'essuie ou absorbant double épaisseur Netto est à seulement 2,53€ au lieu de 3,84€. De quoi essuyer toutes les bêtises de vos petits monstres.
2,53€ le paquet d'essuie ou absorbant double épaisseur Netto? Les enfants, on est sauvés!
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Pack de 6 rouleaux, 34% de remise immédiate, plus d'infos sur netto.fr.
Jusqu'au 30 avril, découvrez les séries limitées Audi Black Edition sur les modèles A1, Q2, Q3, A4 Avent et Q5 à partir de 370€ par mois avec apport. Profitez d'équipements d'exception comme le pack esthétique noir exclusif, le volant et les jantes Audi Sport et la caméra de recul sur l'Audi A1. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur audi.fr.
Offrant LLD pour une Audi A1 Sportback 30 TFSI S-Tronic Black Edition. Premier loyer de 800 euros réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 1,29€.
L'artichaut ?
Eh oui patron, en ce moment chez Lidl, il est à 1,29€.
1,29€ l'artichaut ? Ils sont encore et toujours moins chers que nous !
Et avec l'application Lidl Plus, il y a moins 15%, soit 1,10€ l'artichaut. Oh, ils sont archi chauds !
Et toi t'es archi...
archi mal, eh oui, je sais patron.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr. RTL Matin.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine, vous recevez donc ce matin celui qui est encore le président du directoire du groupe M6, Nicolas de Taverneau.
Et Nicolas de Taverneau, vous vous apprêtez donc à quitter le groupe M6 après 37 ans, presque la moitié de votre vie. Je le disais, vous avez connu pas moins de 17 ministres de la Culture, de Jack Lang à Rachida Dati. Et ce soir donc, à minuit, j'imagine, ce sera officiellement terminé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce matin en vous levant ?
Ben, je me suis dit que la transition se passait bien. C'est pas toujours le cas dans les entreprises, surtout quand il y a un dirigeant un peu ancien ou historique. Et donc, on a une bonne transition. J'aurai mon plus jeune collègue, David Lara Mendy. C'est un Basque, qui va prendre la suite, et avec une bonne équipe, et dans un climat agréable. Donc, quand vous réussissez votre transition, vous avez déjà fait pas mal de... La boucle est bien bouclée.
Mais vous avez pas eu un petit... Je sais pas, pincement au cœur. Vous y avez pensé ou pas en vous levant?
Un jour comme les autres. J'ai eu le temps quand même de m'y faire, mais voilà, parce qu'on m'a prêté souvent des départs qui ne sont pas arrivés. Il y avait Maxime Saada, mon collègue de Canal+, qui disait assez drôlement, méfiez-vous, les Rolling Stones ont fait 10 soirées de départ. Mais je rassure David, c'est le bon. Bonjour, et donc et un petit pincement au cœur parce qu'il y a une formidable équipe, puis on revoit un peu de... Puis la boucle est un peu bouclée chez vous, parce qu'on a commencé dans les studios d'RTL rue Bayard. C'était un placard à balai à l'époque, on était 50, et donc de revenir dans ce studio avec vous ici, c'est évidemment, c'est un peu la fin du parcours et qui montre quand même que le groupe a, on a un beau groupe aujourd'hui.
Et demain matin, c'est quoi le programme ? Réveil ou pas réveil ?
Ben demain matin, j'ai une nouvelle assemblée générale chez nos amis espagnols à Antena 13, et puis j'ai encore un peu de boulot à faire après.
Bon, et après, justement, qu'allez-vous faire ? Il y a quelques semaines, dans le journal Le Point, vous disiez, si ma santé me le permet, j'aurai des activités professionnelles différentes de celles d'aujourd'hui. Vous verrez et serait peut-être surpris. Vous êtes en pleine forme, vous allez faire quoi ?
Je vais continuer à travailler parce que je pense que quand on a la chance d'avoir une bonne santé, c'est pas la peine de s'arrêter. Et donc je travaille dans d'autres activités. Il y a un groupe auquel je participe actuellement, qui est le groupe GL Events, je sais pas si vous connaissez, qui est un très beau groupe événementiel. Voilà, donc je vais avoir quelques activités, mais j'aurai toujours un petit œil sur M6, à la fois comme auditeur d'RTL, donc j'en verrai peut-être des et puis comme de voir un peu l'évolution de ce paysage audiovisuel. Vous savez que moi j'ai énormément plaidé pour la concentration, parce que nous sommes des... Même si notre groupe a grandi, les groupes français sont très petits. On a, malheureusement, nous n'avons pas été autorisés à fusionner avec notre principale concurrent. C'est une erreur historique.
Une erreur historique de qui?
Bah, disons des autorités qui l'ont décidé. C'est une erreur historique parce qu'on avait la chance de pouvoir concourir avec les Américains qui sont beaucoup plus importants que nous. Demain, les Chinois. Le paysage audiovisuel français a besoin de se muscler et c'est pas en l'émiettant qu'on arrivera à le risquer. Donc, il va falloir absolument qu'on trouve des accords. Alors nous avons commencé à le faire puisque je rappelle qu'RTL, nous l'avons racheté en 2017. On a des activités de cinéma, on a d'autres chaînes de télé comme Paris Première, comme W9, etc. Donc on a constitué un groupe, mais on est encore trop petit, et nos compétiteurs le sont également, pour lutter contre les grands groupes internationaux et l'évolution technologique qui se passe avec notamment Internet et streaming.
Mais quand vous parlez, Nicolas Taverneau, d'erreur historique, c'est un mot fort. Les autorités sont responsables, elles veulent tuer le paysage audiovisuel français, vous le direz?
Non, je pense pas qu'elles veulent le tuer.
Elles se rendent pas compte.
Simplement qu'on a très souvent dans, on regarde souvent le passé et on n'appréhende pas l'avenir. C'est-à-dire qu'on photographie un instant présent sans se projeter dans l'avenir. C'est vrai dans beaucoup, beaucoup de secteurs. Et aujourd'hui, l'Europe, parce que c'est pas propre à la France d'ailleurs, c'est propre à l'Europe. L'Europe a besoin de se muscler, avoir des entreprises fortes parce que la concurrence est très, très violente. Vous le savez, François Langlais le dit tous les matins. matin. Et cette concurrence forte, elle est particulièrement vraie dans le domaine de l'audiovisuel, avec les Netflix, les Disney, les Warner, etc. Et donc, il vaut mieux regrouper les entreprises françaises ou les entreprises européennes. Et ça n'a pas, jusqu'à présent, ça n'a pas pu se faire.
Dans 10 ans, la télé, elle existera toujours ?
Oui, alors, il faut faire attention, les prévisions, par exemple, Monsieur Netflix, si j'ose dire, oui, avait dit, il n'y aura jamais de publicité sur Netflix. Ben, on a trouvé de la publicité sur Netflix assez vite. Bon, aujourd'hui, les mondes se rapprochent, d'ailleurs, entre le streaming et la télévision dite traditionnelle, et nous lançons M6 Plus, là, bientôt, le 14 mai, c'est du streaming, c'est-à-dire, c'est quoi le streaming ? C'est la possibilité à ce que chaque téléspectateur choisissent le moment où il veut regarder son
programme. C'est voir où on veut, quand on veut.
Alors, soit, vous voyez, par exemple, je sais pas, ce soir ou hier soir, il y avait Marie au premier regard chez nous, elle pouvait être regardée avant streaming à l'heure qu'on souhaitait. Ou elle pourra être regardée après si on n'est pas devant sa télé. Donc c'est une évolution, c'est un confort d'usage, mais c'est pas un bouleversement.
C'est pas une révolution.
Non, c'est pas une révolution parce que ce sont les mêmes programmes. Vous voyez, par exemple, Disney Plus vient d'acheter les droits de l'Europa League pour les pays nordiques. Donc on a les mêmes programmes aujourd'hui, seule l'info, ce qu'on appelle le hot news, n'est pas encore en streaming. Pourquoi ? Parce que il y a des rendez-vous qui sont fixes. Mais ce sont les mêmes programmes, simplement ils sont regardés de manière différente. Le vrai changement, c'est l'internationalisation. C'est-à-dire qu'Internet a aboli les frontières qu'avant vous aviez avec les émetteurs. Bon. Et cette internationalisation fait qu'il y a des très grandes sociétés qui pénètrent aujourd'hui, tout à fait honorables, Fox, Disney, etc., qui pénètrent le marché français et qui aujourd'hui viennent concurrencer le temps que les Français passent devant un écran, avec YouTube, avec etc. Et ça, nous avons besoin de faire plus de programmes. C'est pas la technologie, c'est plus de programmes, plus de contenu, plus de fiction, plus de séries, plus de sport. Et c'est pour ça qu'on achète des grands événements sportifs. Parce que nous devons concourir contre ces plateformes qui ont la même offre que nous.
Vous évoquez le sport, les droits de la Coupe du Monde 2026-2030, dont vous étiez venu ici même, nous annoncer d'ailleurs l'acquisition. C'est votre plus beau coup, ça ?
Bon, je ne veux pas un coup.
C'est un joli coup, quand même.
Simplement, nous avons besoin, là, les Français vont regarder la Coupe d'Europe sur TF1 et chez nous. On se la partage à égalité. Ils regarderont l'Euro 2008 simplement chez TF1. Et nous avons acquis 2006 et 2030, les deux Coupes du Monde. Mais il y a plein d'autres événements sportifs. Il y a, pour les Marseillais, là, nous allons, le 2 mai, sur M6, mettre la demi-finale de l'Europa League.
Mais c'est quand même une petite fierté de quitter le groupe comme ça en ayant signé ça.
Oui.
Vous aimez ça.
On a besoin d'avoir. Nous sommes en première division, voire en Champions League. Voilà. Et donc M6 n'est pas une chaîne thématique.
C'est plus la petite chaîne qui monte.
Non. Elle monte, mais ce n'est plus une petite chaîne.
Encore un mot du passé. Votre pire cauchemar, un truc que vous avez jamais raconté.
Je ne sais pas s'il y a des trucs que j'ai jamais raconté, mais le cauchemar, ça a été le Loft.
Le Loft, ça a été le cauchemar. Loft,
parce que ça a été à la fois un événement spectaculaire, parce que ça a bouleversé la télévision. Mais
premier programme, je rappelle, de télé-réalité qui débarque en 2001.
Voilà. Aujourd'hui, ça paraît une buette, mais à l'époque, vous aviez des camps de concentration à la Une du Monde, vous aviez des gens qui vous serraient pas la main, une protection policière, des poubelles contre la façade, et en plus, c'était du direct. Donc, il fallait gérer ces lofteurs. Si j'ose dire, et il se passait tous les jours quelque chose, et dans la chaîne 24h/24, vous aviez quelqu'un qui était au casque, qui écoutait, qui mettait des bips quand c'était pas fréquentable. Voilà. Et certains concurrents, je les nommerai pas, avaient essayé d'en profiter pour qu'on nous retire la fréquence, pour contraire à la dignité de la personne humaine, vous vous rendez compte.
Mais vous l'avez jamais regretté, ça, le Loft ?
Non.
Vous le referiez ?
De toute façon, je veux dire, il n'est pas disponible parce qu'il est chez notre concurrent. Donc,
non, mais si c'était à refaire, qu'on se reprojetait 20 ans, 25 ans en arrière, vous le referiez ?
Oui,
parce que ça s'est fait, c'était pas prévu. Vous aviez juré que vous le feriez pas, et puis
j'avais rien juré du tout. Ah, on avait interprété. Ça, c'était différent. Non. Ce qui était intéressant dans le Loft, c'était nouveau. Aujourd'hui, c'est plus nouveau, toutes ces opérations.
Oui.
Et donc, il fallait être les premiers à faire ça, parce que quand on est une chaîne qui crée des événements, qui crée des nouveaux programmes, on était les nouveaux à créer un magazine économique comme Capital à 20h50, on a fait beaucoup de choses qui étaient assez novatrices, et il fallait pas laisser les concurrents arriver là-dessus.
Dernière question, vous avez pas tout à fait répondu à ma question sur la suite. Est-ce que vous pourriez diriger un autre média que le groupe M6 ?
Écoutez, non. Si ça a facilité la vie du groupe M6, oui. Mais d'abord, maintenant il y a une équipe, hein, avec David Lara Mindy, je précise. non, sinon je vais me faire attraper. Qui prend les commandes. Évidemment, je serai attentif parce que vous n'avez pas passé 37 ans de vie dans un groupe avec toutes vos équipes, des amis partout, pour vous désintéresser de ça. Donc, s'il y a des opportunités pour le groupe, j'essaierai de les transmettre. Mais maintenant, il y a une nouvelle équipe qui prend en charge et c'est très bien comme ça.
Merci beaucoup, Nicolas Taverneau.
Vous restez avec nous, Nicolas, puisque dans un instant, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
Amandine Bégaud, Yves Calvi. RTL Matin jusqu'à 9h. Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Carrefour. Quand vous me dites « Ah, c'est enfin la saison des fraises !» J'ai envie de vous dire que la barquette de 250 grammes de fraises Gariguette Origine France est garantie prix le plus bas à 2,28€, soit 9,12€ le kilo seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, partenaire fruits et légumes de Paris 2024. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
7h54. Philippe, notre invité, Nicolas de Taverneau, donc président du directoire du groupe M6, ben oui, dont fait partie RTL, absolument, est resté pour votre chronique.
Il était là dans ce fauteuil, mon spectateur du premier jour, comme un père débordant d'orgueil pour celui qui prenait son tour.
Ah. Marcel Amont ou tu qu'aimes sexe. Bon, les paroles collent pas complètement parce que Nicolas, c'est pas vraiment mon père. Moi, j'aurais eu un père milliardaire, j'aurais fait une overdose à 12 ans. En plus, je crois que c'est David Lara Mindy, oui, plus que moi, qui prend la direction du groupe M6. Ah. Bonjour, Nicolas. Nicolas, vous êtes le Zidane de la télévision, le Federer de la radio, le Mohamed Ali des médias. Et il fait un peu plus froid sur Paris depuis quelques jours. Comme si le soleil, l'astre des astres, s'était caché pour dissimuler son chagrin de voir le Jupiter des médias tirer sa révérence dans quelques mois. Non ! Ne partez pas, Nicolas. Qu'allons-nous devenir sans vous, orphelin perdu ? Vous me disez si j'en fais trop, Yves ?
Non. Enfin, un tout petit peu, voilà. Mais enfin, Nicolas Taverneau part à la retraite ce soir.
Ouais. Non mais ce soir ?
Bah oui.
Du coup, on s'en branle de lui serrer les pompes.
On pourrait dire ça comme ça. Oui.
Bon, non, parce que je me méfie, c'est un peu Aznavour quand même avec les fous de pain. Mais... Alors non, je vais faire entre les deux. Alors, Nicolas Taverneau, vous êtes celui qu'on appelle le patron, le boss, le parrain, le taulier ou encore l'autre enfoiré, comme disent certains dans votre dos, que je ne citerai pas, par respect pour les journalistes échos à la calvitie affirmée. Les météorologues priapiques et médecins américano-berbères, les cuisiniers contents, les chroniqueuses nonagénaires habillées en rouge, les journalistes au nom de ville corse, les toulonnaises au rire sonore, bref, tous ces faux culs. Alors Nicolas, c'est 37 ans à la tête de M6, 37 ans au pouvoir, c'est un peu moins qu'Omar Bongo ou Kadhafi, qui ont tenu 42 ans, mais c'est mieux que Fidel Castro, Saddam Hussein, Moubarak ou Pinochet. Bravo patron, pour vous dire à quel point ça fait longtemps qu'il est là, Nicolas, il a connu Charlie et Lulu de leur vivant. Et ce soir est organisé une grande fête surprise.
Oui.
Merde, je l'ai dit. En l'honneur de Nicolas.
Oui.
Mais comme c'est encore lui le patron, il y aura des chips Marc Repère, des gâteaux secs périmés, voilà, de l'eau du robinet. Mon conseil, venez avec votre cake maison et votre gourde. Non, je ne parle pas d'Amandine.
Non, mais
enfin,
non,
mais il a regardé. Non, mais vraiment, Yves, c'est quoi? Écoutez, c'est 20 des années 80.
Oui, non, glissons. Vous faites référence, Philippe, à un trait de la personnalité de Nicolas. Mmh. On dit, comment dirais-je, gestionnaire intransigeant, éventuellement un PDG économe.
Un gros radin, me disiez-vous, à l'antenne. Une pince. Alors, je ne crois pas qu'il faille parler de radinerie. Je crois au contraire que Nicolas nous aide à nous échapper à un matérialisme effréné. Il nous permet de nous élever un peu. Alors là, bon, vous avez vu qu'il est amputé des doigts parce que il a viré son jardinier marocain qui voulait être payé. Donc, le gars lui demandait 50 dirhams, 5 euros de l'heure. Nicolas a dit, je vais le faire moi-même, dégagez. Jean Toufik. Alors, bon, alors moi, j'ai une expérience personnelle. Oui. J'avais demandé pour 3 ans, je lui avais demandé 50 000 euros pour...
30 000.
Il m'a dit 30 000. Allez, 40.
Non, 30 000.
Bon, j'ai laisse tomber, c'est un con, je le fais quand même. Alors, pour vous donner un exemple concret de son côté économe, il faut savoir qu'à la base, il voulait que l'amour est dans le pré, ça s'appelle l'amour est dans un bureau à l'office parce que ça coûte moins cher en déplacement. Et c'est Nicolas qui faisait Karine Le Marchaud. D'ailleurs, on a l'extrait. Bon, Sandrine, je vous présente Michel. Non, c'est pas la chèvre, c'est la dame, hein, Sandrine. Alors, bon, je vous laisse 5 minutes pour copuler. Après, ça dégage, on a besoin de la salle pour une réunion. Oh non, Michel, il y a votre chef qui vient de chier sur mon tapis en alpaga. Tenez, appelez-moi Chapette et Tortora, on va remplacer les voitures de turbo pour les trottinettes. Ça fera des économies d'essence.
Oh là là, Philippe, pouvez-vous dresser un bilan de la présidence de Nicolas de Taverneau?
Oui, c'est bon. Alors, Nicolas, c'est une carrière exceptionnelle. Patron d'M6, propriétaire des Girondins de Bordeaux, chevalier de la Légion d'honneur et surtout un coup de génie incroyable en 2009, la mise à l'antenne du talentueux Philippe Cavrivière.
Oui, c'est cela.
Quel flair vous avez eu. Nicolas de Taverneau, c'est aussi toute une génération qui vous dit merci pour nos premières érections.
Ah oui.
Alors, c'est pas lui directement. Je parle,
non, mais précisons-le, oui, bien sûr, évidemment.
Je parle des films érotiques sur M6, dimanche soir. On a tous été émoustillés par ces films. Le saxophone du dimanche soir, Sidney Bechet et l'entreprise...